Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Sur ces bateaux-là, il ne faut pas se blesser et il ne faut pas tomber à l'eau. Comme sur chaque bateau, bien sûr, mais sur ces bateaux précisément, non, il ne faut pas tomber à l'eau. L'eau, en tout cas le liquide sur lequel flotte l'embarcation. Il faut avoir le moral pour travailler en égout. On vit comme des rats, dans la merde, ça pue, c'est dégueulasse, dit un égoutier. C'est dangereux, c'est sale, c'est physique, mais j'adore, dit un autre égoutier. Oui, il faut avoir le moral, les égouts, on n'en fera jamais une salle de bain, de toute façon. C'est pas une promenade, ce n'est pas une croisière, mais on y va. On y va ? On y allait, le 26 octobre 2004, lorsque fut diffusé ce Surpris par la nuit sur France Culture. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 octobre. J'ai dit le 2 octobre, hein. Alors, c'est le 26. On y va. On y allait, le 26 octobre 2004, lorsque fut diffusé ce Surpris par la nuit sur France Culture.
Surpris par la nuit.
Fluctuat nec mergitur, parole des gouttiers.
C'est bon, tout le monde est là. Ça roule.
Bah, si vous avez quelque chose à dire, bah, vous le dites. Hein.
Oui, bah, il pleut et on préfère avoir du soleil.
Normalement, quand il pleut comme ça, on n'a pas le droit de descendre.
Non.
On n'a pas le droit de descendre. On n'a pas le droit. On va voir le plan d'eau des égouts parce qu'il monte à toute vitesse. Alors, ça dépend quand on descend. Il y a une certaine hauteur d'eau à respecter, quoi. Parce qu'après, ça devient trop dangereux. Mais là, on y va, là. On va les voir. Parce que quand il pleut, et ben. Suivant la hauteur de l'eau, après ça devient trop dangereux après. Alors je suis obligé de faire arrêter la manœuvre pour la sécurité des gars quoi.
Il y avait un câble derrière pour accrocher le wagon. Ouais. Et en allant le décrocher, comme il y avait pas mal de merde, on appelle du fumier sur les banquettes, j'ai glissé, je suis tombé dans l'eau jusqu'à là. Bon, la tête n'a pas été sous l'eau, mais tout le corps quoi. Jusqu'au cou quoi. Ouais. Dans un collecteur qui était vide, il s'est passé qu'on l'est rentré, je me suis lavé, désinfecté. Je me suis remis en bleu, on est reparti après. Bah direct, hein, de toute façon, le boulot n'est pas terminé, hein, donc il faut y retourner. Hein. Mais bon, on est obligé de rentrer quand même pour se désinfecter. Quoi. Ouais. Surtout avec la flotte, comme elle est vraiment acide, elle est pourrie et tout, tu risqueras d'après d'avoir même l'épiderme, la peau, tout ça, avoir des problèmes. Quoi. De sérieux séquelles quand même. Donc on retourne à l'atelier, on prend une douche, on se désinfecte, et on se remet en bleu, et après on repart au boulot. Quand on écoute un peu les anciens, au début on se dit oh là là, c'est quoi ce truc là? Et puis après, bah, ça y va tout seul. Hein. Mais c'est pas évident quoi. Hein. C'est vrai que c'est pas donné quand même. Moi j'en ai vu des gars, au bout d'une journée, le lendemain on le renvoyait pas quoi. Parce qu'il y en a qui ont la compréhension quoi. Ils arrivent pas à aller au taf comme ça quoi. Voir le noir, tout ça, ça les appréhende. Descendre dans les grands collecteurs où c'est profond et tout, j'en ai vu plus d'un qui avait peur quoi. Donc les mecs ils reviennent pas en général, hein. Il y en a pas mal qui... ou alors ils sont partis ailleurs dans des petites lignes, mais ils sont pas restés au collecteur. T'as vu comment ça parle bien? Non voilà, c'est le domaine des égoutiers. C'est le domaine des égoutiers. Alors pour une fois que je parle bien, tu vois, ça y est. Hein, t'as vu? C'est toi chef. Bien joué chef.
C'est bien, c'est bien.
Hein? Bon mon chef il est content de moi, sur ce messieurs. Je vais au boulot.
Les égouts de Paris, là, c'est pas ça?
Non, c'est
pas
ça. Non, c'est un tcha-tcha, je crois.
Ah, tcha-tcha,
ouais, des égouts.
Ah, le tcha-tcha des égouts, ah. Ah bah. On est loin de ta tchaté, tu vois. Et tu connais pas l'air, toi? Non.
Flic et flac et flopoté jusqu'aux genoux, nous nous promenons dans les égouts. Nous sommes au frais pendant les mois d'été, et l'hiver nous sommes abrités. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige là-haut, nous nous baladons au bord de l'eau. C'est plus pittoresque et beaucoup moins banal que Venise avec son grand canal. Égoutier, a le joli métier que celui d'égoutier. Égoutier, a le joli métier d'égoutier.
Ça se trouve, le plan d'eau, il est
trop.
Il est haut et puis en fin de compte, on va pas pouvoir faire grand chose ce matin.
Tu penseras à moi hein, parce que je suis la plus petite.
Bah, tu monteras
donc,
sur
mes...
Tu monteras sur
le plan d'eau, il risque de m'arriver.
Comme les tortues, tu seras comme une carapace, tu monteras sur mon dos.
Non. Hein non, parce que je suis la plus petite. Donc, si pour toi il est haut, alors pour moi, je ne pas.
Bon, on va. Tu vas rentrer ton camion, mon.
Ouais.
Alors attention, là, on va retirer des.
Ouais, attention,
ça va être bon. Ah. On va retirer les flots.
De toute façon, si vous sortez, il y a des voitures.
Ouais bon, bah écoutez, on va aller voir, on va descendre en premier pour voir si c'est pas trop dangereux quoi.
Et on est où là en fait?
Ouais. On est en face du trou là, toi le trou il était là-bas, place Pereire, et puis on se retrouve carrément sur la place. On arrive sur un bassin là, d'ensablement, mais pour passer dans le collecteur. Parce que là... comme le bateau il est entre le 1 et puis le bassin, on fait moins de parcours possible à pied pour pouvoir sortir en cas de danger.
Si physiquement tu n'y arrives pas, c'est très dur.
Bah oui, bon, parce que quand vous descendez et puis vous avez 100 mètres ou 200 mètres de corps flottant à passer avec un croc et puis pendant des heures, et puis ça pue, c'est... C'est comme on dit, c'est la merde entassée sur 60 d'épaisseur, sur 100 mètres de long, qu'il faut passer ça derrière les bateaux. C'est horrible. Quand vous voyez des rats crevés dans les corps flottants qui datent peut-être d'un mois ou deux mois, qui sont coincés avec les plans d'eau, ça se décoince. Et vous crevez ça avec les crocs et puis tout. Là, c'est plus la même. Là il faut passer la merde parce que dans les y a des endroits où ça pue, les odeurs remontent. Il y a des moustiques qui remontent, c'est rempli de rats et tout. On est obligé de tout nettoyer tout. On est obligé de tout nettoyer. Notre but, c'est de nettoyer les égouts. Paris, c'est en dessous, c'est une poubelle. Tout le monde déverse n'importe quoi en égout.
On a vu des mineurs dedans le temps. Et c'est pas pour rien. Ah bah c'est pourri en bas. Hein. On peut attraper le Saturnis à cause du plomb. Il y a toute la ferraille, la noisissure. C'est une bactéries bactériologique. C'est rempli de microbes, quoi. Nous, on les respire tous les jours. Alors, sur une carrière de 30 ans, bah, vous voyez, vous arrivez à la retraite, vous n'êtes pas en bonne santé, des fois. Bah, d'ailleurs, c'est reconnu par l'INSEE qu'on perd 2 minutes de notre vie par jour.
Je vais descendre là pour voir le plan d'eau. Je vais descendre pour voir le plan d'eau et puis je vous dis si vous pouvez descendre ou pas. Okay. Parce que ça se trouve, je vais pouvoir manœuvrer et ça se trouve, je vais pas pouvoir quoi. S'il y a 60 cm d'eau sur banquette, on peut pas. Devant le bateau. Parce qu'après, ça devient un lac et le danger de la sécurité des gars. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure, messieurs.
Ok, pour le marquage de matinée, ça va être dur. Tu vas bien là ? Oui, tu veux payer ?
On est là à combien là ?
Ah bon ? Ah bah attends, il y a un tablier. Ouais, je vais descendre avec elle. Ça peut être dangereux quand même, donc je vais défendre avec eux. On laisse pas Richard tout seul.
Depuis longtemps, les hygiénistes, les ingénieurs, les architectes disent qu'il faut des égouts dans Paris. Ceci dit, on n'avait pas fait grand-chose. Dans les années 1830, il se passe quelque chose de particulier, c'est le choléra en 1832. Et ce choléra va mettre l'accent sur l'insalubrité urbaine et en particulier sur la nécessité de réaliser des égouts. Il faut se représenter une ville comme Paris à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Il y a très peu d'égouts. Il doit y avoir quelque chose comme 5 à 10 kilomètres d'égouts. C'est très très peu par rapport à la longueur des rues. Et ces égouts ne sont pas destinés à collecter ce qu'on appelle aujourd'hui des eaux usées, mais à collecter des eaux pluviales et puis des eaux éventuellement de nettoyage, si l'on nettoie, ce qui est assez rare. Alors, les eaux que l'on utilise dans la ville sont aussi très peu nombreuses, puisqu'il n'y a pas de distribution d'eau à domicile. De toute façon, l'eau qui est consommée dans le logement ne doit pas être rejetée dans les égouts. C'est interdit. Donc, il n'y a pas du tout la vocation actuelle du réseau d'égouts. Donc, les eaux qui sont utilisées, qu'on appelle les eaux ménagères, sont rejetées dans la rue. Et il y a une chose qui n'existe pas, qui est la chasse d'eau. C'est-à-dire que les toilettes sont des toilettes dites sèches. Et les matières excrémentielles sont recueillies dans ce que l'on appelle des fosses d'aisance, qui sont des caves, généralement, supposées étanches et qui recueillent ces matières. Et ces fosses d'aisance, lorsqu'elles sont pleines, on les vidange. Et on les apporte dans des terrains particuliers qui s'appellent des voiries. Et là, on les transforme en engrais.
C'est pas une promenade. Hein. Bon, on y va.
Tu descends derrière moi ?
Ouais. Et ben là, on arrive, on est place Perrer et on arrive dans le collecteur Marceau. Le collecteur Marceau, c'est un collecteur qu'on cure, qu'on est en train de curer avec le bateau. Et on envoie peut-être 300 ou 400 mètres cubes de bâtard dans le bassin Courcelles. Alors on a un parcours à faire de 50 à 60 mètres par jour. Et suivant la manœuvre, il y a des fois plus de sable que d'autres. On arrive sur des difficultés parce qu'il y a des tôles, il y a des tuyaux. On est obligé d'extraire parce que le bateau il avance plus et puis tout.
Et là, les édifices, ils datent de quand ?
1800... Ils datent de très vieux. Belle grande, c'est belle... Là, c'est un truc que je peux pas trop te dire parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais avec les années, je suis arrivé presque au bout, alors... Allez, on remonte.
Hop, on repart.
Là, il y a un mètre d'eau.
Là, c'est trop dangereux et j'ai pas envie de risquer votre vie pour rien. Quoi. Allez. Allez, on y va.
Permanence des égouts, j'écoute. Oui.
Oui. Alors là, Voilà, bah, c'est ça, c'est, que c'est, une ancienne, c'est un ancien égout qui a été réaménagé pour pouvoir, en fin de compte, nous installer. D'accord. Donc, on voit des canalisations d'eau, eau potable, eau non potable. Là, c'est, ce sont des différentes pièces qui ont été aménagées en atelier, pouvoir mettre le matériel. Donc on va faire un petit tour dans la galerie. Alors attention les têtes, ça c'est pas haut. Hein, c'est un égout. Un égout en général fait à peu près 1,90 m de haut. Hein, c'est la taille à peu près. 2,30 exactement les tailles standards, c'est 2,30 m et 1,40 m. C'est à peu près ce qu'on trouve. Hein. On en a des plus grands, des plus petits. Quoi. Alors vous faites attention à la tête. Alors ça c'est l'ancienne galerie en raison de roulage. On passait nos petits wagons, les lorries un peu similaires à ceux des mineurs, et qui étaient chargés donc de sable, et qu'on emmenait jusque sur le quai pour pouvoir les extraire par les péniches. Voilà, moi je vais prendre. Je vais prendre donc une paire de bottes. Ça c'est pas les miennes. Voilà. Alors ça sont des bottes qui montent jusqu'en haut des cuisses. Hein, bon, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent comme bottes. Parce que bon, dans les égouts, soit on marche sur les banquettes, soit on marche directement dans l'eau. Mais bon, on peut avoir de l'eau jusqu'aux genoux, des fois un peu plus haut. Hein, sinon, dès que ça monte après, on utilise les pantalons bottes, ce que je vous ai fait voir juste avant. Sinon, on a encore la botte de petite taille, quoi, on va dire en haut des mollets. Mais qu'on utilise très peu maintenant. Ensuite. Primordial, le casque. Donc maintenant, le casque a une évolution, hein, parce qu'on a des visières de protection pour les éclaboussures. Ils sont bien adaptés derrière pour pouvoir accrocher les lampes avec le câble. Ça se règle, ça c'est l'amélioration. Avant, les premiers égoutiers avaient des casquettes. Hein. Ils avaient juste la petite casquette traditionnelle. Là. Alors, après, voilà, le fameux donc, harnais de sécurité, qui ont bien évolué, puisque ça c'est un modèle récent. Hein. Donc on l'enfile comme un blouson. Et après, il suffit de passer les sangles entre les jambes et puis de le ramener. Hein. Et avec le fameux masque de fuite, c'est une petite boîte qui est fermée hermétiquement. Et à l'intérieur, vous avez un masque. En fin de compte, c'est un peu les masques qu'on utilisait contre les gaz, hein, qu'on peut utiliser contre les gaz. Hein, bon, avant, il y avait des cartouches et tout ça. Maintenant, voilà, il est adapté. Hein. C'est notre boîte de sécurité, ce qui nous permet, en fin de compte, de fuir, en fin de compte, de sortir de l'égout en cas de déclenchement des appareils. Hein. Par exemple, le gars là dont je vous parlais, qui est décédé dans l'égout, il avait en fin de compte déposé un produit genre trichlore pour empêcher justement les rats de remonter. Et il est venu, je sais pas pourquoi, son masque n'a pas fonctionné, je sais pas. C'est un masque à cartouche. Et le masque, on l'a retrouvé parce qu'il y avait un escalier, quoi, dans le milieu de l'escalier. Et lui était presque dehors en fin de compte. Hein. Et il appelait au secours, quoi. On voit bien qu'il essayait de se raccrocher à quelque chose, mais il avait enlevé son masque. Alors pourquoi il l'a enlevé, on ne sait pas. Ça.
Une sorte de péniche avec des organeaux qui sont en voûte. Et cette péniche, on baisse la vanne, il y a 600 mètres cubes de bâtard devant. on est parti de l'étoile et on a une moyenne à faire de 50 à 60 mètres par jour. Et des fois, eh ben, quand ça se passe mal, comme là, là, ce matin, j'ai fait mon barcan que de 20 mètres. Alors sur cette péniche, on l'a amarrée. Il y a une vanne qui descend dans une tunette d'1,50 m de profondeur où qui a le bâtard dans le trou du milieu. Il y a des banquettes sur les côtés. On met des ailettes en bois, c'est pour faire monter la pression derrière le bateau. Le plan d'eau monte et c'est ça qui permet au bateau d'avancer. Et donc, les ingénieurs, ils demandent de faire un plan d'eau pour nous pour qu'on puisse manœuvrer. Vous voyez, ils font envoyer par des siphons de l'Alma, ils nous font envoyer un certain nombre de mètres cubes de flotte pour pouvoir qu'on travaille. Parce qu'il n'y aurait pas quand même les ingénieurs derrière nous, on ne pourrait pas travailler. Sans eau, vous ne pouvez pas travailler en égout. Ça pue, le sable ne bouge pas. Tant qu'on n'a pas assez d'eau, on ne peut pas manœuvrer. Alors, eh ben, c'est la force de l'eau qui fait tout avancer. Alors des fois, eh ben, là, comme je vous dis, il y a une vanne devant. Et on est 6, parce que chacun a son rôle sur un bateau. Il y en a 2 aux chaînes. On marche toujours sur 2 chaînes. Il y en a 2, il y en a 1 à la vanne pour monter et descendre la vanne. Et il y en a 2 sur banquette qui tirent des torches, des détritus devant la vanne, des parpaings avec des crocs et tout. Des trous, ça veut dire que les grilles sont parties. Il y a des entreprises privées qui nous ont mis des plaques en tôle, de la tôle sur les banquettes, pour pas qu'on se casse la figure. Mais ils n'ont pas pensé, en mettant ces plaques, de les mettre à ras de la banquette, qui fait que quand on passe avec la vanne, on accroche cette plaque et il n'y a plus rien qui bouge. Alors on est obligé ce soir de la dessouder, de la décoincer ce bateau, parce que là, quand on va arriver ce soir, c'est sûr qu'il est coulé. Et la vanne, elle est au fond du collecteur. Alors là, je vais faire amarrer sur les chaînes. Et on remonte parce que là, on est coincé, quoi, on ne peut plus rien faire. Et là, on va remonter. Et là, on va...
Oh, c'est là !
Oh. Hein ? Essaye de... Attends. Essaye de remonter la vanne. On va essayer, on va faire encore un essai parce que j'ai pas envie d'être de nuit, ça m'intéresse pas.
Et vous allez revenir cette nuit à quelle heure ?
Oh, sur les coups de 11h quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce que la nuit il y a moins d'eau. Et là le bateau il est carrément bloqué. Et si on passe pas de nuit, on risque à. Là je fais. Ah bah écoutez, je peux dire qu'on... non, tu règles, ouais, descends. On peut dire qu'il y a un bon Dieu sur terre parce que la plaque, eh ben, s'est arrachée avec la pression de l'eau. Et on va régler le bateau et la journée, elle est finie. Je peux vous dire que quand vous avez passé 4 heures là-dedans, vous en avez marre. Messieurs, je vous invite à remonter.
L'herbe glisse, attention.
Oui.
Oui.
Qui va ? Oui.
Oui.
Ah là là, quelle misère.
de l'antenne.
Voilà.
Elle était mignonne, c'est la semaine là-dessus. Il y a du bruit.
Mal mis, peut-être.
C'est pas un travail que tous les égoutiers savent faire.
Ah oui ?
Ah ouais. Moi je dis, il y a entre. Allez, je vais réduire un peu les pourcentages. Il y a entre 20-25% des égoutiers qui pourraient pas faire ce boulot-là. Parce qu'il est hyper dangereux. Tout le monde ne peut pas y aller, tout le monde ne le fait pas. La peur de l'eau, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin là, de nos anciens, là, parce que c'est un métier qui est dangereux, et surtout là au collecteur. Non, vous l'avez vu vous-même.
Hein. C'est le travail le plus dur, finalement.
Au niveau pénibilité, ouais, c'est le collecteur. Ouais. Et au niveau de la dangerosité, au niveau de l'eau, ouais, c'est le collecteur. Il n'y a rien à dire. Parce que bon, la collecte, il travaille essentiellement que dans les petites lignes. Il y a le curage petite ligne, c'est pénible aussi. Parce que là, c'est exigu, c'est petit, ils sont tout le temps courbés, c'est autre chose. Mais moi, je parle au niveau, si vous voulez, de la dangerosité de l'eau. Être emporté, c'est là. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. C'est les seigneurs. Moi, je le reconnais. Mon frère, il travaillait et je le respectais pour ça. Il est à la retraite maintenant, depuis février. Mais c'est vrai qu'il était chef au collecteur. Et c'était complètement autre chose. D'ailleurs, quand on parlait entre nous du boulot, il se sentait supérieur à moi, parce que moi j'avais travaillé qu'en petite ligne et j'ai fait du curage petite ligne et du TSP. Ouais. J'en avais pratiquement pas fait ça. Je venais le voir et c'est vrai que bon, c'était hyper impressionnant. C'est pour ça que je vous le dis. Hein.
Vous êtes toute une famille d'égoutiers ?
Puis maintenant je suis le dernier. Il y avait à la base mon beau-père, j'avais un oncle qui était chef, mon frère qui était chef égoutier, moi-même. Et maintenant, ben, c'est fini. Non, c'est...
Quel est votre prénom ?
Julien.
Et Julien, vous avez des enfants ?
Oui, j'en ai quatre. J'ai trois filles et un garçon.
Et le garçon, il veut pas devenir égoutier ?
Bah, il a fait le concours, mais bon, jusqu'ici, il n'a pas eu le bonheur d'être reçu. Le niveau a été augmenté au niveau de l'écrit. Bon, ben, mais il travaille à la ville, il est au nettoiement.
Et vous aimeriez qu'il soit égoutier ?
Ça m'aurait fait plaisir, oui, quelque part, qu'il fasse un peu la continuité de la famille. Mais bon, on sait jamais, ça arrivera peut-être.
C'est un peu une tradition, alors, finalement ?
Comme pas mal d'entre nous à une certaine époque, ouais. Pas mal, ouais. C'était pas un métier très connu. Donc c'était beaucoup... l'embauche se faisait de bouche à oreille, c'est vrai, au niveau des familles. Et ça a nourri... mon beau-père avait nourri sa famille avec ça, moi j'ai nourri la mienne. C'est honorable et on en est fiers.
C'est bien payé, Gauthier ?
Il y a une époque pas trop. Là ça va un peu mieux là. En tant que chef, on gagne un peu mieux notre vie. Bon, par rapport au risque et à la pénibilité, moi je dis qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire.
Vous qui êtes un peu un vieux de la vieille, le 140 rue de Ménilmontant, ça vous dit quelque chose ?
Oui, bien sûr, ma femme, elle est issue de là-bas. Il faut savoir qu'au 140, c'était des immeubles ouvriers. Et pratiquement, tous ceux qui habitaient dans les années 50 étaient ou égoutiers ou balayeurs. Ah ouais, il y avait 40% de la population qui habitait le 140 Ménilmontant travaillait à la mairie de Paris en qualité d'égoutier ou de balayeur. Donc c'est pour ça qu'il y avait de très grosses familles au balai et aux égouts qui étaient originaires du 140 Ménilmontant. Ma femme, donc, était fille des goutiers, était de là-bas. Ah ouais. Non, c'est comme ça que j'ai connu le service des égouts, parce qu'avant, je travaillais à l'UAP. J'étais agent d'assurance. Vous voyez que ça change, quoi. Et je savais même pas ce que c'était qu'un égout, moi. Et c'est bon, une restructuration à l'époque où je travaillais. Bon, mon père m'a dit, pourquoi tu rentres pas aux égouts ? Tu verras, c'est un métier d'homme. Je travaillais avec beaucoup de femmes, moi. J'avais 20 ans. J'ai dit, après tout, pourquoi pas ? J'en ai continué. On finissait en début d'après-midi. Ça nous permettait de s'occuper de notre famille, d'avoir celui qui faisait du sport ou autre chose, ou avoir des loisirs. Ça lui permettait d'avoir une autre vie, quoi, à côté. Et c'est pour ça que je suis rentré. Et que j'ai connu les égouts. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai découvert. Et c'est vrai que les premiers mois, je dis, mais je suis arrivé chez des fous, là. Je sortais des bureaux d'assurance, c'était un peu feutré, c'était que des femmes. C'était un langage, moins cru, je dirais. Parce qu'il y a une époque, c'est vrai que c'était des anciens. Ils avaient fait l'Algérie, l'Indochine, beaucoup. Ah oui, il y a toute une génération d'égoutiers qui avaient fait l'Algérie ou l'Indochine. Donc c'était, ils avaient du caractère et ils avaient un parler assez cru. Alors moi, c'est souvent qu'au début, je dis, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là-dedans, là ? Et puis bon, je me suis fait.
Égoutier, égoutier, a le joli métier que celui d'égoutier. Égoutier, égoutier, a le joli métier d'égoutier.
Je sais que le premier jour, je pensais pas du tout comment c'était en dessous, quoi. J'avais pas vu des goûts encore, je connaissais pas du tout. Je suis rentré un 5 janvier, je me rappellerai toujours, 1980, il faisait froid. Et je travaillais dans le 16e, dans un collecteur, quoi. Mais il faisait froid, mais j'étais garde d'orifice, c'est-à-dire que c'était moi qui étais à l'extérieur. Et je suis arrivé sur le trou, quoi, on appelle ça le trou, branchement de regard. Je suis arrivé à 7h30, et les gars, quand ils sont remontés, il était pas loin de midi, quoi. Ils sont remontés, ils ont vu un gars tout violet, quoi, c'était moi. Ça, c'est mon premier jour d'égout, quoi. J'ai dit, ça commence mal, quoi, je me suis dit. On devient égoutier comme ça, quoi. On arrive, on est manœuvre, hein, plus ou moins, hein. Et puis on apprend sur le tas. Donc on descend dans l'égout, on nous apprend, on nous dit, tiens, vas-y, tu cures comme ça, alors tu tires là. En fin de compte, le bâtard, tu le tires vers l'aval de l'égout avec le courant, quoi, et puis voilà, tu nettoies.
Ce que vous appelez le bâtard,
alors, le bâtard, c'est des liens, c'est un mélange de sable, de tout ce qu'on veut, quoi, qui traîne au fond de l'égout. Les corps lourds, en fin de compte, hein, tout ce qui reste au fond de l'égout. Et ça, il faut le nettoyer, quoi. Alors, moi, j'ai commencé sur un petit collecteur, un wagon, et voilà, donc, le wagon, lui, il avançait, il fallait le mettre en butée tout le temps. On retenait l'eau derrière. Et dès qu'il y avait assez d'eau, paf, on lâchait le wagon, il avançait, et ainsi de suite. Et il fallait enlever toutes les torches. Les torches sont des liants, des sangles de plastique, des trucs d'emballage qui ça forme des espèces de gros amalgames, là. On appelle ça des torches. Il y en a des énormes, en fin de compte. Mais il fallait toujours dégager ça, quoi. C'était notre travail, quoi. Donc, à l'arrière, il n'y a pas besoin d'être vraiment diplômé pour faire ça, quoi. Et puis, donc j'ai passé donc mon concours. Je suis resté toujours dans le 16e. J'ai eu une équipe, on était 5. Et après, donc, je gérais, on va dire, mon secteur. On appelait ça un canton. J'avais à peu près une cinquantaine de rues. Et je la gérais. C'est-à-dire que je la curais, je les surveillais, voir l'état. Je les connaissais par cœur, quoi. Après, il y a eu une modernisation. Et alors là, après, c'était faire du métrage en égout. Ça devenait beaucoup moins intéressant, quoi. Enfin, prendre la prise de mesure, ça allait encore, parce que c'était assez technique, quoi. Mais après, toujours faire la même chose. Et à ce moment-là, donc, pétamment, à un moment, recrutait pour la permanence. Remonter une équipe de permanence cohérente, avec des règles bien strictes et tout, quoi. Tout quelque chose de bien monté, quoi. Et à ce moment-là, comme il me connaissait, il venait travailler sur notre site. Il m'a demandé. Et à partir de là, je suis venu à la permanence. En 85, c'est un métier qui est, on va dire, qui est prenant, qui est passionnant. C'est un métier qu'on apprend, je crois, à aimer, quoi. Au départ, on le fait des fois par obligation, hein, par nécessité. Et c'est un métier qu'à un moment, on y prend goût, quoi. Puis ça rentre, quoi. C'est dans le sens. C'est un peu comme les mineurs, quoi. Les mineurs, les gars qui travaillent dans les mines, c'est la même chose, quoi. On était souvent égoutiers de père en fils, quoi. Il y a des enfants, leur père était égoutier ou leurs grands-parents étaient égoutiers, quoi. On a ici des chefs qui sont... ils sont égoutiers parce qu'ils ont épousé la fille d'un égoutier ou des choses comme ça, quoi. Il y a toujours une relation, quoi. Et si on avait pu appeler ça du compagnonnage, ça pourrait en faire partie, ouais. Je sais que j'étais de Ménilmontant. Et je savais même pas qu'il y avait des gars de Ménilmontant qui travaillaient aux égouts, quoi. Et je le savais pas. Et je l'ai appris après, quoi. Un boulot qu'on ne voit pas du tout, parce qu'à la rigueur, même quand on a eu des gros moments de difficulté dans le travail où on voulait essayer de faire reconnaître notre métier, on a dit tiens, on va essayer de faire des grèves et des choses comme ça. En fin de compte, les gens ne voient pas, quoi. Nous, on fait un travail souterrain. En fin de compte, eux, du moment que quand ils tirent la chasse d'eau, quand ils ouvrent leur robinet, que l'eau continue à couler, en fin de compte, nous, ce qu'on ne faisait pas en bas, si on avait fait grève pendant 8 jours, 8 jours après, il fallait. Il faut aller ramasser tout ce qu'il y avait, quoi. Personne ne le faisait à notre place, quoi. C'est un métier insalubre, on ne changera pas. De toute façon, les égouts, on n'en fera jamais une salle de bain, hein, de toute façon. Hein.
Il y a
harcelé. Harcelé ou pas?
Il y a quelques
fissures
là,
il y a. Bon, va voir. Un problème d'adressage. 3009. Parce que le problème, c'est qu'après, ça devient Chardon-Lagache. Bon, on va prendre sur la droite, hein. À mon avis, ils sont trompés, ils ont appelé ça rue du Buis, de l'autre côté, mais on va regarder de l'autre côté, l'autre égout. Donc en général, on a des plaques de rue. Là, comme on disait tout à l'heure, on a quand même... des égouts qui datent de plus de 100 ans. Donc parfois, les noms de rues ont changé de nom entre-temps, comme par exemple la rue de Berlin, qui, à la guerre 14-18, s'est appelée rue de Liège après, etc. Donc vous avez des trucs comme ça qui nous mettent sur des fausses pistes de temps en temps, comme là d'ailleurs. Donc là, on va retourner en arrière pour aller vers la rue Chardon-Lagache. Notre boulot, finalement, c'est de constater tout ce qu'on voit. Et après, tout remonte à l'émission informatique tous les jours. Et après, ils vont traiter suivant une grosse fuite. Ça va être la compagnie des eaux qui va intervenir. Une grosse dégradation. On va voir si on réhabilite l'égout carrément ou si on vient simplement remettre un peu de ciment à la voûte ou quelque chose comme ça.
Non, c'est un BPO.
C'est un
BPO ? Ouais, pareil, la racine. Alors.
D'accord. Donc là... Dans la voûte, on peut voir des racines qui passent et des infiltrations d'eau. Donc, sur mon ordinateur, c'est pas indiqué. Donc, on va le situer par rapport à une adresse postale. Il n'y a pas de plaque.
Il n'y a rien d'autre que le BR. Il n'y a pas de plaque.
D'accord. Bon, il faudrait que tu me dises quel est l'ouvrage le plus proche.
Le visage du réseau parisien actuel, c'est un visage, c'est une figure qui s'est constituée à partir du Second Empire, des années, en particulier à partir des années 1860. C'est un réseau qui est assez performant, comme je l'ai déjà dit, et tellement performant que ce n'est qu'il y a 15 à 20 ans qu'il y a eu un véritable programme de réhabilitation de ce réseau. C'est-à-dire que la ville de Paris est arrivée à vivre quasiment pendant 100 ans sur son réseau, avec très peu de travaux d'entretien, en tout cas pas d'entretien lourd, parce que c'était des constructions de très bonne qualité, qui utilisaient des pierres de meulière, qui ont d'abord utilisé de la chaux hydraulique, puis du ciment, donc extrêmement résistant.
Ah, vous suivez pour les tuer, non ?
On est à 1 rue du Port à Clichy, à l'atelier.
Vous pouvez me parler un peu de votre équipe là ?
Mon équipe, oui, il y a tous mes vieux qui sont partis, quoi. Maintenant, il me reste un ou deux vieux qui traînent comme ça, mais la plupart, je vais vous le présenter. Il y a Monsieur Saint-Martin qui vient de rentrer, il est quand même, ça fait 8 ans qu'il est là, et il était quand même au curage collecteur à bateau, et puis il a décidé de venir avec moi. Alors je l'ai demandé pour qu'il vienne avec moi. Il y a Monsieur Ross Vincent qui était dans le temps aussi à Levallois et qui a voulu venir avec moi aussi pour voir vraiment qu'est-ce que c'était une équipe de bateaux, quoi. Parce que la seule qui reste sur Paris à l'heure actuelle, c'est Clichy. Ça a toujours été Clichy. Les bateaux, ça a toujours été Clichy. Les anciens curages, on est quand même les maîtres des lieux, quoi. On est... on connaît tout, que ça soit wagon, la descente en égout, on connaît tout, quoi. Alors là, je suis en train de former des jeunes. Alors, je vous dis, il y a Rose Vincent, il y a
Franck
Lamoureux, un bon petit gars aussi, très courageux. Que quand je suis pas là, il fait des fonctions de chef, il me remplace et avec une très grande confiance. Monsieur très intelligent, mais qui mérite de passer, lui, chef et égoutier. Bon, et ben, il y a Daniel Vincent qui vient de passer titulaire il y a deux jours. Il y a deux jours, il vient.
Oui, Daniel Laurent, pas Daniel Vincent.
Oui, j'appelle comme les envahisseurs, parce que lui, c'est un maître des lieux, lui. Il adore les égouts, et c'est un cas à part. C'est que lui, il est prêt à plonger tous les jours, jour et nuit. Il aime ça, c'est un mec de souterrain.
C'est sa passion.
À part ça, il y en a deux qui sont partis sur un BR. C'est les deux plus vieux, quoi. Ils sont partis voir un BR parce qu'il y a une intervention à faire. Mais sinon, voilà.
Pourquoi vous les avez choisis, ces gens-là ?
Parce que c'est des fortes têtes.
Des barges.
C'est des barjots. Parce que je dis que pour travailler sur un bateau, il faut être un peu barjot pour descendre là-dedans, pour rester 4 heures en égout par jour. Hein. Mais ils descendent avec moi, mais ils ont une très grande confiance. Parce que quand je dis attention, il y a trop d'eau, il y a plein d'eau, ça peut casser. Vous êtes des machines, vous êtes tous les jours, vous êtes comme un réveil. On remonte ce réveil et un jour ou l'autre, ça casse. Vous ne savez pas pourquoi ça casse. Ou vous tombez, parce que vous n'avez pas fait attention. C'est les choses de la vie. Que j'ai commencé à taper dans la butte, je travaillais en... j'étais conducteur d'engin, apprenti conducteur d'engin. Vous voyez, et puis après j'étais dans les travaux publics, et en 75... Oui, je suis rentré aux égouts en 75. Et en fin de compte, je suis rentré au service des eaux en 75, et un an après, je suis rentré aux égouts.
Et pourquoi les égouts ?
Pourquoi les égouts ? Parce que... au service des eaux, en 75, ça a commencé à être privatisé. Et on m'a demandé... Déjà, je faisais les fonctions de chef à cette époque-là. Je m'occupais de deux gars et puis tout. Et après, on m'a dit, ça va être privatisé. Est-ce que vous voulez rester à la mairie de Paris ou... Ils m'ont donné à choisir entre le balai et les égouts. Et en fin de compte, j'ai dit, c'est ridicule, le balai. Je préfère les égouts. Et puis en fin de compte, il a fallu que... J'ai commencé en place de la Concorde, et sur les bateaux. Et toute ma carrière d'égoutier, j'ai toujours fait sur les bateaux.
Bon, de temps en temps, j'étais au wagon, mais c'était pas... Il y a 29 ans en arrière, je descendais, j'avais une paire de bottes en cuir. Alors, qui fait que il fallait entretenir tes bottes. Et j'ai connu ça, j'ai pas connu ça longtemps, j'ai connu ça un mois, quoi. Et ma paire de bottes en cuir, je l'ai à la maison. J'ai désinfecté et tout, et ça sert de parapluie, quoi. Il y a 29 ans en arrière. Et il fallait les graisser, ces bottes en cuir et tout, et mettre des grandes bandes dans les bottes, parce que c'était tellement lourd. Et tous les 5 minutes, quand tu marchais, il fallait remettre sa bande, parce que la bande, elle partait. Et il y avait les lampes aussi, les lampes à carbure. Alors tous les matins, il fallait faire la lampe à carbure des vieux, quoi. C'était une lampe où il fallait mettre du carbure et il fallait la faire fonctionner et avec de l'eau et puis tout. C'était vraiment le Moyen-Âge, quoi. Vous mettiez une poche de carbure, vous mettez de l'eau dedans et il y avait une sorte de petite... une petite mèche que vous allumiez avec un briquet et on se promenait avec ça. Mais il ne fallait pas qu'elle tombe parce que, après, si la mèche a se décroché et tout, on était dans le noir. Mais c'était le risque du métier, mais on savait, notre lampe à carbure, c'était carrément la lampe de l'égoutier qui prenait soin parce que c'était sa vie. D'un seul coup, vous vous retrouviez dans le noir, c'est que vous aviez mal fait votre lampe à carbure. Oui. Et quand vous étiez jeune égoutier, vous deviez allumer toutes les lampes à carbure à tout le monde. Il y avait 6 lampes à préparer, il fallait préparer ces lampes. Puis il fallait pas que ça tombe en panne parce qu'on se faisait engueuler. Hein.
On est à l'arrière du bateau, il y a l'échelle. De quoi ? Oui, bah oui, il en manque une, c'est pour ça que c'est dangereux. Et on va essayer de le régler pour arrêter malheur parce qu'il y a trop d'eau là. Donc c'est compliqué parce qu'on est dans un virage. Le truc il est vachement grand en longueur. Et comme c'est un virage, c'est une barre de fer pour aller à toi et on peut pas. Alors on va essayer de le régler au maximum pour pas couler. Et puis voilà. Toute la technique va être dans le savoir-faire. Voilà.
Vous allez lâcher carrément.
Voilà,
on le lâche complètement. Et quand je vous dis de le régler, vous allez régler à l'aveuglé. Voilà. Maintenant, le compter les maillons, c'est fini. On le règle à la main. Maintenant, vous êtes en train de faire des épreuves. Allez-y, messieurs, envoyez. Et vous me le réglez à la volée. Allez-y, on envoie.
Attention. Attention. On envoie.
Là, c'est plus de la rigolade. Là. Oh. Eh
bon,
tu me le règles à la volée. T'inquiète pas, il va s'arrêter, vas-y. Alors là, vous avez le temps. Attends. Non, c'est bon. Bah non, pour l'instant, ils sont dans la merde. C'est normal, c'est les jeunes égoutiers. Mais ça va rester brouille pour mal. Mais le bateau n'est pas réglé. Mais t'es obligé de faire encore une longueur. Vite, 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 vite! Trop tard! Trop tard! On a des... On appelle ça des anticoulants. Et les anticoulants en fin de manœuvre, ils doivent poser sur banquette. Ce qui permet que le bateau il reste toujours stable. Il ne descend pas au fond du collecteur. Si les chaînes d'amarre sont réglées d'un côté plus que de l'autre, et eh bien l'anticoulant il se retrouve dans le collecteur et le matin le bateau il est coulé. Alors au début c'est rigolo, mais arriver en fin de carrière comme moi à prendre des poubelles ou des seaux et vider le bateau plein de merde, c'est plus rigolo du tout.
Je suis désolé, mais il y a 3 millions de chômeurs, il n'y a qu'à embaucher des mecs.
Nous on est vieux maintenant. Attention, Hey, attention, j'espère qu'il est bien réglé là.
Ça va, il est réglé là.
Hein. Hey, bah, tu te débrouilles, tu travailles sur les bateaux et bah, tu te démerdes.
Oui, chef.
Là, c'est fini la rigolade.
Oui, attends, chef. Attends, regarde-moi.
Alors, je vous explique. Les copains, normalement, ils ont annoncé de la flotte. Et on tombe devant une petite ligne. On n'a pas le droit à l'erreur. Parce que demain matin, il va être coulé par la petite ligne. C'est la petite ligne, c'est toutes les eaux usées qui s'envoient dans les collecteurs. Et quand il y a des orages, et ben, si le bateau est amarré devant la petite ligne, et ben, le matin, il est coulé. Alors, le matin, à 6h30, hein, à 6h30, vous n'avez pas envie de décoper le bateau. Déjà, c'est déjà dur de descendre là-dedans. Alors, mais là, heureusement, vous avez affaire à des jeunes égoutiers parce que ça la fout mal. Hein, ça la fout mal. Là, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Est-ce qu'on peut le régler encore, non ? Là, vous l'avez tout faux. Bon, écoute. Alors, comme je dis, je suis en train de former des jeunes, hein, et j'ai pas encore dit oui, vous savez travailler sur un bateau. C'est pas possible, c'est pas en quelques années que vous apprenez à travailler sur un engin de curage comme ça, parce que c'est vraiment dangereux. Vous avez vu comme moi les choses de la réalité, des hommes qui travaillent en égout, qu'est-ce que c'est ? Là, vous avez vraiment les gens qui travaillent en égout, les hommes qui... Il faut avoir le moral pour travailler là-dedans, il faut toujours avoir le sourire. Vous voyez ? Après, on peut vous critiquer, vous n'avez rien à vous reprocher. Quand vous avez travaillé là-dedans, comme on dit en langage des égoutiers, il faut en avoir dans la culotte pour rester dans un égout. Il faut avoir faim. Il faut avoir faim.
Vous savez, quand on remontait au tout début dans le temps de Jean Valjean, c'était les taulards qui allaient en bas. Hein. Bah, c'était les prisonniers, hein, à l'époque. Quoi, c'était une rumeur, mais dans le temps, c'était les taulards qui descendaient en bas pour bosser, quoi. C'était condamnés à mort, et hop, de l'époque, hein, on les envoyait là-dedans, puis voilà, quoi. C'était... regardez même des prisonniers qui s'évadaient par les égouts, tout ça. Hein. Donc, c'est vieux, vieux, vieux. Pourri et ruiné à mort même. Comme on dit, on est des rats en fin de compte. On vit comme des rats. Comme des rats. Bah oui, on est tout le temps en bas, dans le noir. Vous avez vu, on travaille dans la merde, ça pue, c'est dégueulasse, c'est dangereux, c'est malsain. On est comme des Gaspards en fin de compte. On est un peu comme eux, quoi. On vit en bas tout le temps, 4 heures tous les jours. Quand vous voyez ça comme ça toute l'année, ça fait beaucoup, hein.
Moi, j'arrive à 5 heures. Je dors ici. Non, j'arrive à 5 heures parce que pour être tranquille. Comme ça, moi, j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire, le café. 6h15, on s'en va. À 6h30, 7h15, on est dans le trou. Hein. De toute façon, ça, c'est tout le monde à la même enseigne. Hein.
Et jusqu'à quelle heure vous travaillez ?
Bon, bah, au moins jusqu'à 11h15, 11h, ça, selon le plan d'eau. Selon le plan d'eau, rapport au bateau. Parce que bon, des fois, si l'eau monte trop vite... Bah, on est obligé d'arrêter, hein, sinon on est noyé. Hein.
Et l'eau, elle monte au cours de la journée ? Comment ça se passe ?
Bah ouais, bah, au coup de 8h, 8h30, bah, dès que les gens ils se lèvent pour prendre leur douche, tout ça, bah, l'eau, elle monte. Hein, là, sauf s'il y a un orage, si... bon, bah, là, on est toujours prévenu en rapport à l'homme de dessus. Hein. Et puis bon, bah, des fois, ça peut arriver qu'un courant d'air... Bon, allez, un courant d'air, c'est bon. On va voir s'il n'y a pas une pluie dans un endroit où ça commence à se couvrir. Hein. Ça... C'est comme ça qu'on s'en aperçoit. Quoi.
Et vous levez à quelle heure alors le matin ?
À moi, 3h30. Ah, j'habite loin, moi. Hein.
Vous habitez où ?
Dans l'Aisne. Alors donc il faut le temps de faire la route, prendre le train, tout ça, bon. Hein. Ça, c'est les aléas de la vie. Hein. Ça fait 23 ans que je fais la route, avec le train, tout ça, bon. Ça, c'est une habitude, hein. C'est une habitude.
Ça bouleverse quand même un peu la vie de famille, de se lever à 3h du matin.
Ah, bah oui. La preuve, je divorce. Alors ça rentre dans les... ça rentre. Si, si, j'ai remarqué quelque chose, parce que la vie de famille, mon pote, ça casse tout, hein. Ah, c'est sûr, hein. Puis tu rentres tout jamais à la même heure. Hein.
Qu'est-ce que ça casse?
Bah, ça casse tout, hein. Je sais pas, moi, ça casse... La femme en a marre, hein. À un moment donné, elle dit faut arrêter là, hein. Sauf changer de boulot. J'ai dit, bah, je préfère changer de femme, c'est mieux.
Et vous autres, ça bouleverse votre vie de famille, ce boulot-là?
Non, moi je suis célibataire, moi. D'abord les égouts, la femme, ça vient après.
D'accord. Non, non, sinon moi j'ai déjà divorcé, mais ça n'a rien à voir avec les égouts. C'est une chose de la vie, quoi. Sinon, non, c'est vrai, bon, bah, ma femme est souvent inquiète quand je pars le matin, parce que elle est jamais sûre ce qui pourrait m'arriver, si je peux avoir un accident ou quoi, bah, j'ai 3 enfants derrière. Alors, c'est vrai que les femmes sont beaucoup inquiètes, mais sinon, bon, bah, on les rassure comme on peut, quoi. Moi, je travaille dans le bâtiment, j'étais sur les plateaux, sur les toits et tout, et il n'y a pas plus de danger qu'en dégoût, je veux dire, j'ai fait le haut et le bas, maintenant. Mais j'arrête là, hein. Là, j'arrive à 43 ans, c'est bon, là, je finis ma carrière dans les égouts et puis j'arrête. Hein. Je laisse ça aux jeunes après, quoi. Parce que vu l'avenir, de toute façon, moi, je travaille depuis l'âge de 16 ans, c'est bon. Je commence à avoir aussi ras-le-bol, quoi. Bon, en plus, j'étais élevé à la dure, comme les anciens chez les vieux. Et moi, à 16 ans, j'ai quitté l'école, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Mon vieux m'a dit, moi, j'ai pas de chômeur à la baraque, tu vas au boulot, puis terminé, quoi. Puis j'ai pas eu le choix, hein. C'est ça où j'allais me foutre à la porte.
Qu'est-ce qu'il faisait, votre père?
Couvreur. Mais dans l'architecture et tout, quoi, il commandait des mecs, il faisait tout de l'architecte. Puis voilà, toute sa vie, mais avant la guerre, il était bouché. Il a fait la guerre, il a été bouché avant, il a fait la guerre, et après il a été couvreur. C'est-à-dire qu'à 30 ans, il s'est remis en question, et il a fait les concours de l'époque, quoi. Et il est parti couvreur, chef couvreur. Puis il dirigeait tout le monde. Parce que quand vous êtes au 15e étage ou au 8e étage, quand vous avez des petits jeunes, il faut les sécuriser à fond, quoi. Parce que là, la chute, elle est haut. Là, il n'y a pas de rescapé. Là, tu tombes, t'es mort. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Là, c'est... J'ai pas de diplôme. Alors moi, tout jeune déjà à la maison, c'était dur et j'avais pas le choix. Fallait le boulot ou c'était la rue. Alors j'ai fait un petit boulot, j'ai pas eu de diplôme. Bon, puis j'étais un petit peu comme tous les jeunes, un peu révolutionnaire. Moi, dès qu'on me gonflait, je partais, mais je retrouvais un autre boulot aussitôt parce que sinon à la maison, ça serait mal passé, vous voyez. Et bon, bah petit à petit, après j'étais brancardier. Et brancardier, j'ai fait pendant 8 ans au bloc opératoire, puis j'ai eu des allergies. Il a fallu que j'arrête. Ils n'ont jamais voulu reconnaître ça en maladie professionnelle. Bon, j'étais chauffeur-livreur bon, en 10 ans, coursier, tout ça. J'ai fait le bâtiment dans la peinture, c'est pareil, j'ai attrapé les allergies aussi, à cause des inhalations, le wheat, aspirine, des trucs comme ça. Puis là, bah, après, bon, bah, au fur et à mesure des trucs, ça arrivait dans les égouts. J'étais 3 ans au chômage, où je ne trouvais plus de boulot. Bon, moi, il y avait les monts, moi, je ne dormais plus, je commençais à péter vraiment un cap, quoi. Il y avait mon manourir, les factures à payer et tout, je ne savais plus comment faire.
C'était dur, cette période?
Très dur. Hein. Ah oui, j'ai perdu 15 kilos en quelques mois, quoi. Parce que je dormais plus. Hein. Je dormais plus, je mangeais plus, il n'y a plus de pognon. Hein. Il n'y a plus de pognon à la baraque. Hein. Et là, je commençais, quand t'as des mondes derrière, faut tu les as là, quoi. Bon, puis après, j'ai passé un concours à tout hasard, comme je ne suis pas trop intellectuel. Je me suis dit, je vais faire un concours à la ville, n'importe quel boulot. Et bon, la première fois, m'envoyer une feuille, il y avait pas mal de concours, agents de mal, de machin et tout. Bon, comme à l'école, j'étais pas trop, tu vois, haut placé. Je me suis dit, c'est pas pour moi, je vais rater, j'ai laissé tomber. Et 15 jours après, j'ai reçu le concours des gouttiers.
De toute façon, qui risque rien n'a rien. J'ai essayé, puis j'ai été accepté. Un coup de chance, hein. Ah, on était 4 reçus à l'époque sur 400 dossiers. Sur 400, on était 4 embauchés. Dans les 2-3 premiers mois qui venaient, quoi. Après, ils en ont embauché d'autres, des jeunes. Et sur le coup, j'étais content. Hein. Ah oui, quand j'ai reçu la lettre comme quoi j'étais accepté au concours, j'étais content. Puis après, j'ai attendu qu'il y ait un poste qui se libère. J'ai attendu, je crois, c'est 2 ans, je pense, comme ça, ou 2 ans et demi. Et puis après, j'étais embauché comme égoutier.
Et votre première descente ?
Oh, ma première descente, oui, non, ça s'est bien passé. J'étais appréhendé quand même, parce que je connaissais pas. Puis c'est vrai que moi, j'étais un peu partout dans les boulots, mais sauf les égouts, quoi. Et bon, c'est vrai, c'est noir, c'est dégueulasse. Il y avait les Gaspard, mais les rats, j'aime pas trop ça. Les araignées non plus. Et puis bon, à force, on s'y fait. Hein. Ça, c'est comme tout. Moi, la première fois que je suis monté sur un échafaudage, j'étais au 12e étage. Quand vous êtes dans le vide, vous regardez en bas, tu dis, oh là là, c'est haut. Hein. J'étais pas attaché, j'étais rien. Hein. Puis comme j'étais un peu foufou, j'aurais pu tomber comme n'importe qui, quoi. Et bon, après, moi, sur l'échafaudage, on faisait des concours sur les plateaux. On faisait des concours, celui qui montrait plus vite. Ah oui, c'est... Au début, non. Au début, c'est comme tous les boulots. Au début, t'appréhends parce que t'es nouveau, tu connais pas le système. Et une fois que t'es dedans, rouler jeunesse. Hein. Moi, j'ai toujours fonctionné de cette manière, je veux dire. Moi, mon truc, c'est d'apprendre sur le terrain. Faudra pas me demander des trucs techniques où c'est vachement intellectuel. Parce que là, c'est sûr que je me prends complètement, quoi. Par contre, tu m'apprends sur le terrain, y a pas de problème. Moi, je suis jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, quoi. Moi, j'ai pas eu le choix, j'ai pas de diplôme, c'est plus manuel qu'autre chose. Et puis j'y vais, quoi. En général, les égoutiers, c'est vrai que c'est un métier pénible. Et on a tous, chacun sa personnalité, la mentalité, on a tous le stress de la vie. Mais bon, en général, tout le monde est pareil. Hein. On est là pour gagner la croûte, on n'est pas là pour se tirer des coups de pelle dans la gueule. On est là pour nous rendre bonnes fans au monde. Puis voilà, puis il faut travailler dans la vie. Quoi. Donc on n'a pas tous le choix non plus. Quoi. Moi, j'ai des diplômes, c'est sûr, je ne serais pas égoutier. Hein. Si j'étais plus un télo, je ne serais peut-être pas égoutier. Pas que je renie mon métier, mais je ferai autre chose. Après, moi, maintenant, à 43 ans, j'ai bouffé pas mal de merde dans tous les boulots. Et je me dis, j'aurais préféré, en fin de compte, d'être derrière un bureau à faire des signatures, je veux dire. Ouais, ou à remplir les papiers. Au niveau santé, je parle. Hein. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas ragoûtant. Hein. Moi, j'étais brancardier, c'est pareil, j'attrapais des allergies. On risque d'attraper des hépatites. Dans la peinture, c'est pareil, t'as les poumons, il y a des résines, des machins, des trucs acides qui brûlent les yeux. Les poumons, ils prennent une claque dans la gueule. Bon, les égouts, c'est pareil, on se fait gazer. Tu vois, moi, j'ai un pote qui était mécano, et il avait 30 ans, il a arrêté parce qu'il avait des problèmes à cause de la graisse et de l'essence, et problèmes de pulmonaire. Donc, vous voyez, tous les métiers, il y a un inconvénient, quoi, qui peut être à haut risque. Donc, moi, faire ça ou autre chose, là, c'est très bien. Ça y est, je me suis stabilisé, là, je vais jusqu'au bout. Il me reste encore minimum 15 ans à travailler, puis terminé, quoi. C'est la retraite. Donc ça me fera 20 ans d'égout, mes 10 ans de salubrité, mes 20 ans de privé, ça fera 50 ans que je cotise, c'est bon quoi. C'est bon, j'ai donné quoi. Alors on dit il y a du chômage en France, c'est vrai, mais bon, si les mecs ils partaient plus à la retraite plutôt, et puis on faisait bosser les jeunes, tout irait peut-être mieux pour le monde. Hein. C'est vrai que le système qu'on vit, c'est pas... On nous oblige à vivre jusqu'à 70-80 ans, puis ils veulent qu'on bosse jusqu'à 70 ans, c'est pas cool non plus quoi. Bon, le système il est comme ça, on le changera pas, mais c'est vrai que c'est... C'est pénible, ça devient saturé, c'est saturé de tout le monde. Et tu vis plus vieux, faut bosser plus longtemps, faut payer, et il n'y a plus rien qui va, quoi. Donc faut faire le minimum, juste au niveau de la vie, puis après, au diable d'avarice. Parce qu'on ne sait pas où on va finir, comment on va finir, surtout, il faut en profiter un peu, quoi. Moi, j'ai pas envie d'arriver à 60 balais comme un con, avoir bossé toute ma vie, et qu'on me dise, monsieur Saint-Martin, vous avez tous 6 mois à vivre, et puis vous allez mourir. Je fais putain, j'ai rien fait de la vie et j'ai que bossé comme un con. Et puis, c'est vrai, quoi. Moi, j'en connais des tonnes hein, comme ça. Hein. des mecs jamais malades, jamais rien, qui fumaient pas, qui buvaient pas, et puis ben, ils sont morts, hein, comme les autres. Hein. Pourtant, les cimetières, c'est rempli de héros, hein, je veux dire. Hein. Et c'est pas la peine de jouer des caïds, hein, faut... Minimum. Faut faire le minimum parce que c'est la vie, mais c'est tout, quoi. Le reste, faut en profiter pour soi-même, sa famille, quoi.
Alors tu vas monter la vanne tout doucement, mais tout doucement. Et t'écoutes qu'est-ce que je te dis. Attention, on va se débloquer là. Attention, il va partir les enfants. Attention, là, ce... Et faites attention, cramponnez-vous parce que c'est plus de la rigolade. Là on coule, là, tu vois, regarde.
Il y a une fuite là.
Non, il n'y a pas une fuite, c'est la côte qui t'enfonce dans le radier. C'est qu'il doit y avoir une plaque, une tôle. Une grosse tôle qui traîne ou alors des parpaings ou c'est horrible. Descends la vanne, descends la vanne, descends la vanne. Descends la vanne. Voilà, on est mal, on est mal, on est mal. Eh, hey, il faut le décoincer. Bon, je vais aller. Didier, regarde s'il n'est pas coincé derrière la banquette là-bas.
Ah, moi, c'est tout à fait le contraire. Moi, je connaissais déjà les égouts avant d'y travailler. Parce que depuis très jeune, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est souterrain, un peu côté labyrinthe, les carrières. Ensuite, avec beaucoup de mal, j'ai réussi à connaître les catacombes de Paris. Pas d'enfer Rochereau où il y a les touristes, mais les parties non accessibles, théoriquement. Et puis ensuite, petit à petit, par d'autres personnes, j'ai connu les égouts, plus ou moins de la même manière. Puis ensuite, j'ai eu envie d'y travailler. Donc c'est par passion que je suis là avant tout. Oui. Et puis bon, là maintenant, j'ai l'intention d'y rester jusqu'à la retraite. Point de vue travail, je vois rien de mieux. Parce qu'avant de travailler aux égouts, en gros, j'étais dans l'informatique. Et puis bon, là, c'était le cul sur une chaise toute la journée devant un écran. Puis bon, ça bougeait pas. Il me fallait quelque chose de physique. Et puis les égouts, bon, ben, c'est dangereux, c'est sale, c'est physique. Mais bon, j'adore. Par exemple, une fois, je suis descendu dans une galerie télécom au niveau de Saint-Michel, donc rive gauche. Et ensuite, on est passé sous la Seine. Ensuite, on est passé dans les égouts du côté des Halles. Et ensuite, on est ressorti dans le forum des Halles sur le quai du RER. Tout ça sans mettre le nez dehors.
Tu descends régulièrement sous terre, en dehors du cadre de ton travail ?
Alors, je descends régulièrement sous terre, oui. Mais bon, depuis que je travaille aux égouts, j'y descends moins à titre personnel. Mais par contre, je descends énormément dans les carrières. En ce moment, c'est beaucoup les carrières souterraines abandonnées en Picardie, en pleine forêt ou bien sous Saint-Gobain, sous la ville de Laon. Enfin, c'est des régions truffées de carrières là-bas. Donc la semaine, le travail en égout, le week-end, les explorations de carrières souterraines en Picardie, en ce moment.
Thank you.
écraser, là, dépêche-toi. Tu peux faire écraser. Amarre-le vite, merde, on va couler, on va couler. On va couler. Alors là, on l'a amarré, mais il y a tellement de pression, il y a tellement d'eau, qu'à tout moment, ça peut casser. Et vous avez vu comme moi qu'on est prêt à couler le bateau. Il s'enfonce dans le collecteur, et après on coule, on n'a plus rien à faire. Mais il faut qu'on le... C'est pour ça que j'ai fait réparer les chaînes d'amarre, vous voyez, parce que c'est la sécurité. Là, l'organo, il a cassé. Mais il y a tellement de pression que... Voilà, c'est ça un organo. Sur quoi qu'on s'amarre? C'est un rond qui est fixé dans le mur. Et c'est là-dessus qu'on amarre le bateau.
Et là, il a craqué.
Et là, il a cassé. Le voilà ton organo.
Pourquoi ça s'est
blessé? Parce que c'est avec l'usure, et ben c'est, il commence à être usé. Mais il y a quand même un contrôle là-dessus qui te fait... Mais il y a tellement de pression qu'il n'y a rien qui arrête la pression de l'eau. Et ce bateau, parce que si jamais le bateau monte sur banquette, là c'est une croisière de 400 ou 500 mètres. Si le bateau monte sur le bâtard, après on s'en va au fil de l'eau après. Et alors c'est au petit bonheur la chance. Si tu arrives à sauter, ça va. Si tu n'arrives pas à sauter, bah, tu coules avec ton bateau. Si vous avez des questions à me poser, là, ça va aller très vite parce que...
Qu'est-ce qui vient de se passer, là?
Ça a encore pété, quoi. La chaîne, elle a pété. La centrale, elle a pété. C'est une centrale qui a pété. Si on m'entend parler, messieurs les ingénieurs, vous saurez quoi faire.
Normalement, les statistiques, c'est... vous restez 5 à 6 ans en vie, quoi, sans séquelles. Moi, j'ai un pote qui est tombé dans le bassin Pereire, là, où qu'on est descendu ce matin. Et en fin de compte, au bout de 6 mois, il s'est lavé et puis tout. Il n'a pas été à l'hôpital, il n'a pas voulu et tout. Mais après, il avait quand même des problèmes d'estomac. Il a eu des graves problèmes d'estomac au bout de... Parce que les séquelles, ils viennent plus tard. Plus tard, et c'est vrai que au bout de 5 ou 6 ans, il y a beaucoup de collègues à moi. Il y en a beaucoup qui ça a été prouvé que c'était une maladie des égouts. Ils sont morts à cause de ça. Vous savez, une retraite d'un égoutier.
C'est pas pour
rien. Vous faites une carrière, comme j'explique. Vous faites une carrière. Il faut pas vous blesser en égout. Il faut pas tomber dans l'eau. Si vous avez le malheur de tomber dans l'eau, vous pouvez avoir des séquelles plus tard.
Et votre retraite, vous la voyez comment? Vous allez faire quoi?
Maman va aller au boulot.
ma retraite, c'est bien simple. Et ben, moi, comme je suis un bosseur, et ben, je sais pas. J'irai, je continuerai à bosser. Je pourrai pas rester sans rien faire. Parce
il ira au boulot sous les palmiers.
Non, j'aurai les moyens. J'aurai les moyens. Justement, je partirai dans le midi et puis tout. Mais vous savez, une retraite d'un égoutier, je ne suis pas chef égoutier, j'essaye de le préciser, c'est que vous partez avec 6500 francs, je ne sais pas combien ça fait en euros, je vous parle en anciens francs, et ça ne fait pas beaucoup. Vous êtes obligé, parce que c'est un salaire, c'est une retraite de misère. Vu qu'est-ce que vous avez fait pendant des années, vous êtes cassé dans les... Pour prouver que vous êtes un bon ouvrier, il n'y avait aucune reconnaissance. Vous partez à la retraite. Au bout d'un mois, il y a un bouquin qui sort sur les départs en retraite et puis tout. Les gars qui sont pas, ben vous êtes qu'un numéro. Vous rentrez à l'administration. Moi, quand je suis rentré, j'étais de 637 SOI, 637 827. Et dans un an, je partirai. Ils vont barrer mon numéro. Et je serai oublié comme tous mes collègues qui ont été oubliés. On n'est rien, on n'est que de passage. Le seul truc aux égouts, c'est pour être bien vu. Faut pas tomber malade. Faut pas d'accident de travail. Là, vous êtes bien vu. Sinon, le reste. Et là, je suis content parce que il y a quelques années en arrière, je me battais pour avoir une prime des corps flottants parce que c'est un travail qui est très très dur, c'est plein de microbes et tout, et c'est seulement maintenant qu'on va toucher des primes qui sont distribuées pour passage de corps flottant et puis tout, parce qu'on m'a dit bah, comment vous avez fait les vieux, comment on faisait dans le temps, ils demandaient jamais rien, vous arrivez, c'est que j'ai trouvé ça très dégueulasse. Hein, passer pendant des heures des corps flottants et tout, et maintenant on arrive à avoir des primes qui sont attribués justement pour ça, c'est distribué, c'est seulement maintenant, quand j'arrive en fin de carrière, c'est un peu dommage, quoi. J'ai travaillé pendant des années avec un chef qui s'appelait Monsieur Corr, et en fin de compte, c'est lui qui m'a formé de tous les dangers qui a pu exister. C'était un monsieur vraiment qui avait du caractère, parce que pour travailler dans les égouts, il faut avoir du caractère quand même. Hein. C'est pas de la rigolade. Hein. On ne dit pas vous rentrez aux égouts. Il y a 29 ans en arrière, quand je suis rentré là-dedans. Je me suis posé des questions parce que vraiment j'ai eu peur, la peur de ma vie. Je me demandais qu'est-ce que c'était vraiment un rat qui passait à côté entre tes bottes. Hein, j'avais des collègues, je voulais repartir, je voulais arrêter ce métier-là parce que vraiment c'est catastrophique. Quand vous arrivez en bas, vous êtes dans le noir comme des taupes, quoi, et puis qu'il y a des rats qui passent entre vos jambes, vous voyez, c'est 100 mètres de corps flottant, je vous appelle des corps flottants, c'est la merde des riverains qui est entassée l'un sur l'autre, vous voyez des rats qui flottent, qui sont décoincés, qui sont morts, qui sont gonflés par l'eau et puis tout, et vous avez peur de les percer parce que vous avez peur de prendre ça dans le visage, quoi, parce que ça explose, c'est comme un ballon, vous le percez avec votre pic et puis vous passez pas à travers. Le triclo qui vous remue les tripes, parce que vous avez une famille, quand vous rentrez à la maison, vous avez une famille, et vous êtes obligé de prendre une bouteille d'eau de Javel pour désinfecter derrière vous, pour pas filer des microbes à votre famille, parce que vous avez des gastro-entérites, vous avez des mal de ventre, vous avez peur d'avoir des éclaboussures, d'avoir le cancer de la peau.
Beaucoup à la mort en égout.
Non, c'est plutôt que une fois vous êtes tombé dans l'eau, après vous êtes plus le même, vous n'en sais plus sur un bateau. Moi, peut-être je suis un cas, mais j'ai des collègues qui sont euh, qui allaient partout sur le bateau, pendant la manœuvre et puis tout. Et après, une fois qu'ils sont tombés dans l'eau, eh ben, c'est fini. Vous n'avez plus les mêmes réactions, quoi, parce que vous pensez qu'à ça, quoi. Parce que quand même, vous travaillez un plan d'eau d'un mètre de haut à moitié taille. Il y a beaucoup de pression. À tout moment, vous pouvez tomber dans l'eau. Il faut s'assurer sur la banquette, tirer sur les torches pour faire avancer un bateau et tout. Mais c'est vrai, une fois que vous êtes tombé dans l'eau, c'est plus la même. Vous n'avez plus la même confiance. J'ai vu un collègue à moi tomber dans l'eau. J'ai pas pu. Et ben celui qui était à côté de lui sur la banquette, et ben sa réaction, et ben il n'a pas pu aller chercher le mec parce qu'il était
figé
sur la banquette et mon pote était dans l'eau. Et en fin de compte, il n'est pas resté au bateau. Il est parti dans les petites lignes ou il est parti autre part parce qu'il ne pouvait pas sauver le copain. Votre réaction, c'est que si vos collègues ils sont là et ils ne peuvent pas aller vous chercher dans le collecteur, c'est que le gars, il peut pas manœuvrer sur un bateau. C'est la sécurité, quoi. C'est la sécurité des gens. Quand moi, je sens le triclos ou je passe des corps flottants et puis je vois que l'appareil, on a quand même des appareils hein, qui nous indiquent qu'il y a des odeurs, H2S, CO et tout ça. Mais on arrête tout et puis on remonte tout de suite parce qu'on a peur, quoi. Vous voyez, il y a un taux à respecter et je suis pas le genre de mec, on continue. Il faut tout arrêter. La sécurité, c'est ça.
D'accord. Tout le monde est là, c'est bon ?
Bon, ça glisse les...
Ouais, faites gaffe, il y a une couche de calcaire. Hein. Donc ça a tendance à glisser, en plus qu'il n'y a pas de rampe. Donc,
sur la tête, canalisation.
Faites gaffe. On va aller en aval. Ouais. Fais attention aux canalisations. Ça glisse. Donc là, vous avez toutes les canalisations d'eau potable et non potable de Paris. Donc le non potable pour les parcs et jardins et l'eau potable pour tous les particuliers. Donc chaque coup est découpé en tronçons. Donc là, on va vers la valve du tronçon pour ensuite aller vers l'amont, etc. Pour le faire tomber le monde.
Ben voilà, on arrive devant le puits à bateau là. Alors vous voyez le plan d'eau déjà. Vu le plan d'eau qu'il y a ici, on doit voir des marches. Il est vraiment haut, quoi. Alors on descend le bateau là-dedans. Et pour faire une remorque, vous savez, on est un peu comme au Moyen-Âge. On a au moins 30 égoutiers qui tirent sur une corde. Le départ est au bassin de Clichy. Et on monte ce bateau jusqu'à Place Clichy. On tire à 30 mecs, comme au Moyen-Âge, avec des cordes. On remonte le bateau. On met 3 ou 4 jours pour monter jusqu'à Place Clichy. On fait quoi, 100 mètres ou 200 mètres. Et après, le lendemain, on continue. Ça dépend de la fatigue des gars, parce qu'il faut tirer sur la gorge. Vous savez, une fois que vous avez fait la remorque, votre épaule, elle est vraiment imprégnée par la sangle, on la désangle, exprès pour tirer sur ce bateau, quoi, pour faire monter le bateau. Et les épaules, elles sont vraiment... moi, je sais que je suis griffé ou alors
J'ai senti, quoi. Vous mettez une semaine pour vous en remettre, parce que c'est très dur. Très, très dur. Même s'il y a 30 mecs en train de tirer sur une corde, ça reste au Moyen-Âge. Et on a essayé d'inventer des trucs, mais il n'y a rien à faire. C'est à la bonne époque qu'on arrive, quoi. Parce que pour l'instant, ils inventent des prototypes et tout, mais le meilleur économie pour la mairie de Paris, c'est les bateaux.
Et un bateau, il reste combien de temps dans les égouts, alors, une fois qu'on l'a...
Bah, ça dépend, parce que là c'est des gros bateaux, ils sont... Ça dépend de s'il y a des révisions à faire et tout, parce que, bon, celui du Marceau, là, on va bientôt le sortir, il a resté au moins 7 ou 8 ans dans les égouts. Mais il y a des bateaux qui tiennent pas trop de choc, vous voyez. Il y a des coques qui... Il y a des trous dans les coques, et puis tout, quand on voit que ça cogne contre les banquettes et tout, ça arrive toujours à faire des trous, quoi. Imaginez-vous un égoutier en fin de carrière, hein. Vous voyez la tête du bateau, vous voyez l'égoutier, quoi. Voilà.
Est-ce que tu es au lycée, au BR, tu sais le BR où il y avait l'arbre dessus?
Ah, comment ça se fait?
Moi, je mérite de partir en retraite. Parce que je suis fatigué. J'ai 50 ans, je suis fatigué. Et je peux vous dire que quand vous arrivez en fin de carrière, bon, je suis fatigué, mais de voir tout ça, quoi. Parce que. Mais je vous dis qu'une chose, je continuerai à travailler, à bricoler, parce que c'est dans mon tempérament, quoi. Mais. Il faut que je m'en aille. j'en ai trop vu, j'ai trop curé, faut que je m'en aille.
Fluctuat necmergiture, parole des Gouttiers.
Il flotte mais ne coule pas, parole des Gouttiers, une émission produite par Adrien Landivier et Nicolas Trébert.
Nous remercions Richard Jourdraine et son équipe de curage à bateau de Clichy, Monsieur Saint-Martin, Didier, Daniel et Aurore.
Philippe Busini, Daniel Pétamant et Julien de la brigade d'intervention des égouts de Paris.
Bertrand Perry et l'équipe de collecte d'informations du sud-ouest parisien.
Sabine Barle, maître de conférence à l'université Paris 8.
Et enfin, messieurs Lançon et Deville d'Avray du service de communication de la mairie de Paris.
Prise de son, Alexandre James, Laurent Lucas. Mixage, Noélie Pellegrin. Réalisation, Thomas Duterre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 octobre 2004.